pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
Il est déjà
non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'émission, on va parler des ultras. Vous savez, ces méchants supporters souvent pointés du doigt parce qu'ils allument des fumigènes dans les tribunes ou parce qu'ils chantent des chansons paillardes dans les virages. Mais comme dans Banquette, on n'aime pas les caricatures et qu'on aime bien aller au fond des choses, on va vraiment, mais vraiment parler des ultras. On va parler de ce que c'est d'être un ultra au quotidien, avec la vie de famille, les amis, les collègues. Être un ultra, c'est un peu comme épouser son club. On est là pour le meilleur et pour le pire. Et pour parler de tout ça, j'ai reçu Damien Dol Chabourine, un ancien ultra du Paris Saint-Germain, auteur du livre « Paris dans les veines, 365 jours dans la vie d'un supporter du PSG » aux éditions Marabout. Avec lui, on a parlé de ses souvenirs d'ultra, ses premières expériences au Parc des Princes, des souvenirs de matchs du PSG-Barcelone, enfin du Barcelone-PSG surtout, et aussi de ce que c'est pour lui d'être un ultra. Voilà, Banquette, c'est tout de suite. Salut Damien, comment ça va ?
Salut, ça va et toi ?
Très très bien. Bah écoute, ça me fait un peu bizarre cette émission, cet épisode, parce qu'on va parler des ultras, mais t'es un ancien ultra du PSG, donc c'est ça qui est un peu bizarre pour moi qui suis supporter marseillais. Et du coup, t'as sorti un bouquin qui s'appelle « Paris dans les veines, 365 jours dans la vie d'un supporter du PSG ». Et c'est vrai, quand j'ai commencé à le lire, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en tant que supporter de foot, je me reconnais directement dedans, malgré le fait que ce soit un bouquin sur un supporter du PSG, mais on se reconnaît forcément dans ces histoires sur le mercato, sur les défaites, les victoires, la vie au quotidien du club. Comment ça t'est venu cette idée, justement, d'écrire ce livre ?
Il faut remonter à la genèse, on va dire, de ce bouquin. L'an dernier, il y a 14-15 mois, quand le début du transfert de Neymar à Paris est arrivé, je me suis retrouvé, moi et beaucoup de supporters de Paris, avec la vie un peu chamboulée, on va dire, au quotidien, presque à la nanoseconde. Comme tu le dis d'ailleurs, c'est quelque chose qui traverse un petit peu toutes les tifoserias. Dès qu'il y a un gros transfert, dès qu'il y a un mec qu'on a envie de voir dans notre club, on est pris au quotidien et plus qu'au quotidien, c'est quasiment heure par heure, voire minute par minute. Et quand j'ai raconté ça à la rédaction, très précisément à Ramsès Kefi, un de mes collègues excellent par ailleurs,
chez Libé,
exactement, à Libération, pardon, il m'a dit ok, super, c'est très intéressant, mais plutôt que de m'en parler, tu ferais mieux de l'écrire, de le coucher sur papier, parce que lui pensait que finalement ce qui nous apparaît naturel en tant que supporter ne l'est pas pour tous les fans, ne l'est pas pour toutes les personnes lambda, on va dire, et que aussi ça n'a pas forcément été écrit cette manière, on va dire, finalement il y a assez peu de récits sur la vie de supporterisme. On a des récits sur la vie de hooligan, par exemple, il y a beaucoup de bouquins anglais sur les ultras, un peu moins déjà, mais en tout cas sur le supporterisme classique, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui a été écrit. Donc du coup, il m'a conseillé de faire ça. Ça a été validé par la chefferie sport à Libé. Je suis parti là-dessus. Ça a plutôt bien fonctionné, avec beaucoup de réactions de fans de Paris, mais pas seulement, de personnes qui disaient je vis exactement la même chose. Ça, ouais. Je me reconnais là-dedans. Et puis l'article a bien fonctionné. Ça a été vu par mon éditeur chez Marabout. Et Benoît Bontou, et lui du coup m'a proposé de faire exactement la même chose, mais sur une saison, sur une saison complète, sachant que je ne traite pas tous les jours, mais je dois en traiter un sur deux ou un sur trois sur la saison 2017-2018.
C'est ça ce que tu dis, ce qui est assez fou, c'est que pour beaucoup de gens, en fait, ils ont du mal à comprendre l'importance que ça a dans la vie d'un supporter, son club de foot, et notamment sur les infos de transfert, tu parlais de celui de Neymar. Moi je me mets à la place d'un supporter du PSG quand j'apprends que t'as le troisième meilleur joueur du monde qui a des chances de venir jouer dans ton club. Moi je suis dans tous mes états pendant toute la période des rumeurs, quoi. Genre tous les jours je dois checker Twitter, Facebook, tous les sites internet, et c'est ce que t'as fait exactement, quoi. Et comment toi tu l'as vécu par rapport à ton entourage, qu'est-ce que ton entourage te disait quand tu passais tes journées à rafraîchir ta page internet?
Bah, je vais pas te dire que ma femme m'a menacé de me quitter. C'était pas loin. En tout cas, je me suis pris un paquet de remarques. D'ailleurs, c'est des remarques qu'on a beaucoup reçues, en fait, finalement, quand on parlait de cette période-là. Cette période-là était quand même particulière, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, le transfert du siècle ou quoi que ce soit, mais dans les montants qui sont engagés, dans les interlocuteurs qui sont concernés, dans le fait que ce soit le club techniquement le plus riche du monde, c'est-à-dire celui qui a le plus gros budget au monde, qui est le FC Barcelone, et ça, on a tendance à l'oublier, puisqu'ils préfèrent mettre l'accent sur les valeurs ou ce type de choses-là, qui sont sûrement totalement véridiques, hein, mais ça reste quand même le plus gros budget au monde. Qu'il arrive au PSG, qui a une des plus grosses surfaces financières au monde, pas forcément le plus gros budget, mais une des plus grosses surfaces financières, mais un club de Ligue 1. Faut vraiment se rendre compte de ce que ça voulait dire, ce transfert, et comme le transfert de Mbappé, il est arrivé juste dans la foulée. C'est un petit peu, ben c'était un petit peu l'été de la folie des grandeurs.
C'était ton meilleur été en tant que supporter du PSG sur le mercato, c'est ton meilleur été?
En fait, à chaque fois, tout est relatif quand t'es fan. Évidemment que mes exigences en termes de résultats et en termes de joueurs aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux que je pouvais avoir dans les années 2000.
Ça, c'est sûr.
Je ne vais pas te dire que j'étais autant heureux de la signature de Coridon, par exemple. Mais, les signatures, par exemple, latines qui a pu avoir quand Heinze, Pochettino, etc. sont arrivées. Ça m'a fait très plaisir. Et je le suivais, du coup, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je le suivais dans c'est le vrai. Parisien au jour le jour. J'attendais le matin, en fait, parce qu'il n'y a même pas l'édition le soir d'avant. Il fallait attendre le matin au réveil, donc je vais chercher dans la boîte aux lettres de mes parents, lire le Parisien, les rumeurs, les machins, etc. Et disons que de toute façon, c'est difficile parce que tu te retrouves avec Dani Alves qui arrive avant, qui reste quand même selon moi l'un des meilleurs arrières droits au monde, dans un poste aussi qui est sinistré, donc du coup c'est peut-être aussi pour ça. Mais quand tu te retrouves avec Neymar et Mbappé, qui sont peut-être deux des quatre ou cinq meilleurs attaquants du monde dans ton équipe, qui arrive à trois semaines d'intervalle, c'est difficile de pas avoir ce mercato, pas forcément dans les meilleurs souvenirs de ma vie de supporter, mais en tout cas parmi les meilleurs souvenirs de mercato.
Sachant que quelques mois avant, tu avais quand même vécu peut-être la plus grosse désillusion sportive de ton histoire. Donc on parle du fameux 6-1 entre le FC Barcelone de Neymar à l'époque et le PSG. Est-ce que justement... avec ce mercato qui arrive énorme, Mbappé, Neymar, Dani Alves, tu te dis, ok, ça entre guillemets, ça efface un peu la douleur vécue au mois de mars, et tu te dis, là, enfin, on va vraiment faire table rase de tout ça, et on va tout défoncer, quoi.
Sur le coup, ouais. Plus tard, un peu moins.
Ouais, on y reviendra. Ouais.
Sur le coup, ouais, parce que tu te retrouves avec... En fait, on va pas se mentir... Dans la folie qui s'est emparée des supporters parisiens au moment du transfert de Neymar, il y avait aussi une part de vengeance.
Parce que Neymar est grandement impliqué dans le 6-1, il met pas...
C'est l'homme du match,
il met 2-3 buts.
Ouais, il met 2 buts, je crois, c'est même pas une passe décisive aussi. C'est l'homme du match, et d'ailleurs, il n'est pas reconnu comme homme du match à la fin de la rencontre. C'est Messi qui est montré par d'autres, ou pour certains, c'est une victoire collective, alors qu'encore une fois, sans son coup franc, il n'y a jamais le 6-1.
Ouais, je suis d'accord.
Et du coup, on sait que maintenant, a posteriori, ça on ne savait pas forcément à l'époque, mais qu'il l'a assez mal vécu. Il a assez mal vécu, et que c'est un transfert d'ailleurs qui s'est décidé. Que c'est pas décidé à partir du 18 juillet, c'est-à-dire que le moment où la rumeur part du journaliste Marcelo Bechler de Esportivo Interativo, je sais plus c'est quoi le nom du média brésilien en question, mais on savait que sa prise de décision était apparue courant juin. On l'a su a posteriori, donc du coup c'est vrai que c'est une forme de vengeance, et en plus ça a effacé le 6-1 sur le coup, parce que d'une des plus grandes hontes, même si à l'étranger, alors beaucoup moins en France paradoxalement, y compris les supporters parisiens, je pense qu'ils étaient tous un petit peu sous le choc, mais en Allemagne ou en Espagne, ils ont parlé de l'arbitrage, du scandale arbitral, etc. Quand t'es supporter parisien, en fait, t'as tellement honte, à mon sens, en tout cas, sur le coup, t'as pas envie de parler d'arbitrage, t'as envie de parler de la honte des joueurs qui n'ont pas réussi à assumer, ne pas avoir réussi à mettre les coups quand il fallait pour arrêter ça. Et il y a très très peu de supporters parisiens, en fait, qui ont parlé de ça. Et du coup, voilà, pour finir là-dessus, ça a effacé en partie, et après ça s'est un peu estompé, parce que dès que tu retournes sur le terrain, tu vois que tu peux faire les transferts que tu veux, la vérité du terrain, c'est seulement ça qui reste dans l'histoire, et donc du coup tant que Paris n'aura pas battu, éliminé le FC Barcelone,
c'est ça,
ou qu'ils ne seront pas arrivés en demi-finale de Ligue des Champions, je pense que ce 6-1, il ne sera pas véritablement effacé totalement.
Ouais, moi, je voudrais qu'on revienne justement sur ce 6-1. J'ai la chance de t'avoir. J'avais posé un petit peu la question à Ambre Gaudillon dans une table ronde, qui est aussi supportrice du PSG. Mais là, on a plus le temps justement d'évoquer le club et tes souvenirs de supporter. Comment toi, tu l'as vécu, ce match, déjà avant? Enfin, moi, je vais te donner mon avis, c'est que j'avais vu le match aller au Parc, 4-0, grosse maîtrise du PSG. J'étais vraiment impressionné par le PSG sur ce match. Et honnêtement, je ne pensais pas que le club allait s'écrouler comme ça. Pour moi, c'était acquis, la qualification était acquise. Je pensais que le PSG allait perdre 2-0, 2-1, voire 3-1, mais pas plus. Pour moi, c'était acquis. Et en fait, pendant ce match, dès les premières minutes, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez les joueurs. Déjà, toi, avant le match retour, dans quel état d'esprit tu étais?
Bah, j'étais un petit peu comme toi aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je m'en foutais que Paris perde le match ou pas après ça. Tu vois, c'était sur une double confrontation. Donc en fait, le seul résultat qui compte, c'est le résultat totalisé, on va dire, des deux matchs. Je ne pensais pas que ça allait... Je ne pensais pas évidemment que... J'étais pas inquiet. Bon, quand tu es supporter d'un club comme Paris, t'as quand même pas mal de souvenirs qui te reviennent, comme la couronne PSG, le 4-3, ouais. comme le 6-1 de contre la Juve, que quelques désillusions qui ont pu t'arriver et auxquelles tu ne t'attendais pas du tout. Donc du coup, j'ai pu avoir un truc, mais franchement, 6-1, c'est impossible. Alors, tu refais 100 fois le match, 1000 fois le match, il n'y a jamais 6-1. Surtout avec la confiance qu'avaient accumulé les joueurs de Paris. Après, ouais, dès les premières minutes, c'est sûr que la tension, elle est très vite montée. Et encore une fois, quand Cavani marque son but, là, je pense que là, il y a eu le niveau de soulagement en région de France devait être, absolu. C'était genre, c'est bon, c'est parti. Limite, les gens ont déjà réservé leur journée, posé leur RTT pour le prochain quart de finale. Mm-hmm. Et finalement, dans des conditions de
ce qui est fou, c'est que quand Cavani marque le but du 3-1, je me dis, mais là, c'est quasiment impossible qu'ils en marquent. Il y avait 3-1, c'est ça, donc qu'ils en marquent 3 autres. Je me rappelle, j'ai regardé ce match dans une rédac et beaucoup de supporters parisiens, ça a crié, j'entendais même les voisins à l'extérieur, ça a crié. Je fais, bon, bah là, c'est bon, ils ont assuré le truc. Et ça se joue vraiment dans les dernières minutes. Je crois que c'est vers la 80e. Cinéma ne met pas son coup franc du 4-1. Comme tu l'as dit, je pense qu'il n'y a jamais ces deux autres buts qui arrivent derrière. Quoi. C'est vraiment je pense qu'ils commençaient à perdre espoir. Et ce but les a un peu réveillés, remotivés. Et c'est un peu le tournant du match. Quoi.
J'ai jamais revu la fin du match. Jamais. Même pour le livre. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai revu beaucoup de choses pour le livre, y compris des défaites contre Marseille, y compris des moments douloureux lors de problèmes dans la tifosala parisienne, ou ce type de choses-là. La fin du 6-1, je ne l'ai jamais vue. J'ai relu, du coup. J'ai relu pour pouvoir... je ne vais pas avoir les images, mais... Et en fait, je n'ai pas mis beaucoup de temps à me rappeler un petit peu de ces derniers instants, en fait, ce dernier gros quart d'heure en comptant le temps additionnel. Je rentre dans un espèce de vortex où je pense que... Je pense qu'il n'y a plus rien de rationnel dans ce qui s'est passé, parce qu'en plus, il y a eu Di Maria qui se retrouve seul face au gardien, qui peut la glisser, je crois, à Cavani.
C'est ça, ouais.
Et qui se fait faucher par Mascherano. Alors ça, l'action, du coup, je l'ai revue une fois. Je sais même pas quand il n'y a pas pénalty rouge, etc. C'est terminé. Tu fais ça même dans un jeu, même dans un FIFA ou dans PES, même si le jeu il est buggé, tu sais que ça fait rouge et pénalty, et l'affaire, elle est pliée. Et non, même ça va pas. Voilà, Suarez qui s'effondre, alors ce qui s'effondre en se touchant la tête, alors qu'il se fait toucher le buste. Et puis oui, il y a les joueurs du PSG que tu sens complètement désemparés, que tu sens complètement en train de lâcher. Et oui, tu peux pas prédire ça, et que ce soit avant le match et même pendant le match par rapport au scénario, c'est imprévisible. Et c'est la plus grosse illusion de plus grosse désillusion de l'histoire du PSG. Encore une fois aussi, parce que le PSG a cet effectif-là, cet argent-là, Et donc, du coup, évidemment, ta montée en exigence, c'est pas la même qu'à l'époque où ton attaque, c'était Louis Ndoula ou Haro, tu vois.
Ouais, effectivement. C'était quoi, c'était 8 ans avant, un truc comme ça, ouais.
Même pas 10 piges.
Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, arrive l'été, ce fameux mercato. À ce moment-là, t'es gonflé à bloc, là, t'es confiant pour la saison à ce moment-là.
Bah, t'as pas le choix. Ton attaque, c'est Neymar, Cavani, Mbappé. Donc là, si t'es pas confiant là, en tant que... En tant que fan, en plus je parle même pas en tant que qu'analyste,
ouais.
Mais en tant que fan, enfin, quand tu rentres dans l'analyse à froid, tu peux te dire est-ce que les trois vont être compatibles, est-ce que les trois vont être complémentaires, est-ce que le milieu, est-ce que ça va pas déséquilibrer l'équipe de mettre trois attaquants qui défendent aussi peu, et même Cavani d'ailleurs, des fois il court, etc. Mais c'est pas non plus un attaquant très fort défensivement, il donne beaucoup sur le terrain, mais voilà, il a pas la technique défensive de certains attaquants ont pu avoir. Et donc en fait après au-delà de cette attaque un petit peu voilà, enfin complètement incroyable et l'une des meilleures d'Europe, si ce n'est la meilleure d'Europe sur le papier, tu te trouves avec un effectif qui est quand même les 5-6 plus gros effectifs en Europe et encore plus dans le 11 de départ. T'as pas le choix, t'es obligé d'y croire. Après, du coup, tu te retrouves assez rapidement à te rendre compte que les problèmes ne sont pas que des problèmes de joueurs, mais que ce sont aussi des problèmes d'approche tactique, d'approche mentale des matchs.
Ouais.
Et que oui, il y a un problème dans ce PSG-là, version Qatari, c'est que dans les gros matchs, Paris a quasiment tout le temps failli en fait en Ligue des Champions, quasiment tout le temps.
Bah c'est ça, mais toi, en fait, comment t'es ? Parce que c'est la question que je me pose souvent. C'est les supporters du PSG en Ligue 1, j'ai l'impression qu'ils s'emmerdent un peu en fait. C'est que c'est peut-être trop facile pour eux. Et je ne sais pas comment on arrive à passer de saison, tu sais, le 2008, enfin les années 2000, milieu des années 2000, où c'était un peu laborieux, même avec une saison où le club s'est sauvé à la dernière journée, le fameux but d'Amar Adjane. Et à là, comment on arrive à passer de cette époque-là où on était vraiment, chaque match, on était à bloc de championnat, à maintenant où. J'ai l'impression qu'on sait déjà d'avance que Paris va écraser ses adversaires en Ligue 1, en tout cas.
Tu te mets... Alors déjà d'une, t'oublies jamais la loose de Paris. Faut jamais oublier que sous le Qatar, quand même, il y a eu deux championnats perdus.
Ouais.
Bon, le premier, donc du coup, c'est dans des conditions un petit peu particulières parce que tu n'avais pas encore la puissance financière qui s'était mise en branle, même s'il y avait déjà eu des gros transferts qui étaient partis. Hein. Et un mercato d'hiver, quand même, avec Thiago Motta, hein, c'est quand même pas rien. Mais du coup, tu as celui-là et tu as celui contre Monaco. Et encore une fois, celui contre Monaco est particulier. Des gens voient Paris en échec et vraiment, enfin, genre qui fait une mauvaise saison, mais c'est un des meilleurs, ça reste un, je crois, c'est le cinquième ou sixième meilleur total de points de l'histoire de la Ligue 1, le score de Paris. Et c'est juste Monaco qui a fait une saison exceptionnelle et qui mérite totalement ce titre-là. C'est pas Paris qui le perd, c'est Monaco vraiment qui le gagne sans aucun souci. Donc, déjà d'une, tu sais qu'en début de saison, voilà, tu sais pas s'il va pas y avoir une équipe qui va surperformer. Parce que dans le foot, tout est possible.
Toi, c'est ce que tu dis à chaque début de championnat. Tu dis, il y a peut-être une équipe qui cette année va faire. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est ce que je me dis. Non, je me dis pas que je me dis pas. Je suis sûr. Oh mon Dieu, on est dans la merde. Là, ça y est, c'est fini, c'est la fin de règne. Non, non.
Ouais, c'est
mais
sûr,
je me dis qu'il peut y avoir une équipe Lyon et Marseille cette année avec un meilleur mercato par exemple aurait pu Paris fait sûrement son meilleur début de saison de toute son histoire, enfin techniquement, statistiquement c'est le cas, mais même je veux dire dans les prestations et dans le niveau de jeu, moi j'ai jamais vu ça que Paris sur une durée aussi longue, et surtout en début de Paris, c'est plutôt une équipe de fin de championnat, j'ai jamais vu ça.
Ouais.
donc du coup là, bon, là l'affaire elle est déjà pliée. Après, pour répondre à ta question sur comment on fait finalement, enfin
on a l'impression que c'est peut-être une sorte d'embourgeoisement mais c'est inhérent au résultat du PSG aussi. Est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a une espèce d'embourgeoisement des supporters parisiens qui, pour qui la Ligue 1 c'est le pain quotidien, c'est les affaires courantes, et les vrais bails, comme on dit chez moi, c'est la Ligue des Champions, quoi. Est-ce que c'est pas ça?
Pour une grande partie de la tifosière parisienne, ouais, mais la faute à qui? Sûrement déjà la faute à la direction du PSG qui a fait que de nous parler de la victoire en Ligue des Champions sous 4 ans, sous 5 ans. Automatiquement, tu fixes cet objectif. Si quand alors Tu vois, Macourt et Hérault, quand ils arrivent à Marseille, ils parlent de la Ligue des Champions. Il y en a un qui se balade avec le trophée à la main, etc.
Grosse erreur.
Évidemment qu'il y a des supporters qui se disent, bon, lui, s'il nous montre ça, il n'y a aucun Marseille qui s'est dit, on va remporter avec des champions dans 3 ans. Mais par contre, tu as des Marseillais qui se disent, bon, à lui, s'il arrive avec ça, c'est qu'il va mettre les investissements nécessaires pour directement pour concurrencer le PSG sous 3 ans. Donc, du coup, quand tu te retrouves avec beaucoup de fans marseillais qui sont très déçus du mercato, du type d'investissement, de la direction qu'a prise la cellule de recrutement, et du coup, il ne faut pas s'étonner qu'il y a beaucoup de Marseillais qui soient assez mécontents de ce qui a pu se passer. Donc en fait, si beaucoup de fans parisiens se sont dit le vrai étalon de notre saison, si elle est réussie ou non, c'est notre parcours en Ligue des Champions, je pense encore une fois que c'est la faute de la direction du PSG. Ouais. Après, à titre personnel, c'est sûr que je ne vais pas te dire que je prends autant de plaisir pour un match de fin de saison où on est déjà champion, que les victoires contre Marseille, si tu veux, les 8 d'affilée, il y a une dizaine d'années.
Ça aussi, je veux couper au montage. Hein.
Non, ça, tu laisses ça. Je vais le répéter dans toutes les réponses. Mais du coup, je vais pas dire que je prends autant de plaisir, mais après, tu regardes autre chose. Tu regardes les jeunes, parce que le PSG n'a jamais été aussi riche, mais n'a aussi jamais fait autant jouer de jeunes de son centre de formation. Et voir un Moussa Diaby, par exemple, avec ce niveau de jeu-là, c'est un plaisir absolu pour les fans de la première heure. On a tous attendu ça, on veut tout ça, des joueurs de la région Île-de-France qui font ça. Et les Marseillais, ils veulent des joueurs du cru aussi.
C'était
là-dessus.
Le fameux projet banlieue aussi. Dans les années 2000 qui n'avait pas marché et qui l'a réussi. Mais du coup, toi, par exemple, par rapport à ta femme ou à tes amis ou ta famille, est-ce que tu te dis que maintenant le PSG est très fort en Ligue 1, tu peux te permettre de louper un match le week-end? Est-ce que ça t'arrive de dire, bon, ce match-là, je ne le regarde pas, c'est pas grave, c'est pas un grand match, je ne le regarde pas? Est-ce que ça t'arrive de...
Non.
Non,
non, j'ai pas loupé un match depuis que mon groupe de supporters a été viré du Parc des Princes, donc depuis 2010.
Ouais, le plan Le Pro.
J'ai pas, j'ai pas loupé un match, j'ai pu en voir quelques-uns en différé. Mais ça a été la bagarre pour que je ne connaisse pas le résultat et de le suivre dans les conditions du direct.
La bagarre avec qui? Avec tes collègues, par exemple?
La bagarre. Non, je me suis toujours arrangé pour être dans les endroits où je pouvais ne pas. Mais par exemple, je me rappelle d'une soirée où je rentrais du boulot. Le match de Paris avait commencé. Je ne pouvais pas quitter avant. Le match a commencé quand j'étais sur le chemin du retour. J'étais en Vélib, tiens, d'ailleurs, à cette époque. Et j'étais pas à pied. Et je me rappelle avoir volontairement, quand je passais devant des bars, donc j'avais mon casque, mais ne pas regarder ce qui se passait pour ne pas voir le score, voir des gens lever les bras ou des gens jeter les verres par terre, juste pour pas me tuer le suspense.
C'est
vrai. Mais non, de toute façon, en plus maintenant que téléphone, tu vois, je le raconte dans le bouquin en vacances. Je suis régulièrement en Italie et même en Italie je me suis retrouvé à regarder la fin d'un match ou le début d'un match, je sais plus, dans un train entre Vérone et Vicence, et t'es avec le téléphone, t'es maintenant la 4G elle est gratuite à l'étranger, enfin t'as le droit à tant de jours, donc en fait non, aujourd'hui si tu veux vraiment suivre ta passion, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ou 15 ans où si ça passait pas sur la bonne chaîne t'étais avec des streamings pourris qui laguaient, t'avais pas tous les bars qui passaient les matchs. Maintenant, et en plus quand t'habites dans la région de ton club, pour le coup, si tu veux ne rater aucun match, voilà, et je veux en rater aucun.
Du coup, t'en as loupé aucun depuis 2010.
Exactement.
Donc même les matchs de, je sais pas, un PSG de Lorient, tu l'as regardé quoi?
Même les matchs amicaux. Ouais. Je compte les matchs amicaux dedans.
Ah, même les matchs amicaux. Ouais. Moi par exemple, je la regarde pas trop les matchs amicaux, ça m'emmerde un peu les matchs de l'OM en amical. Moi, je suis vraiment sur la compétition Ligue 1, Coupe nationale et Coupe d'Europe quand on les joue.
Ouais.
C'est fou ça.
Bah l'avantage des matchs amicaux à Paris, mais ça c'est historique, c'est que justement beaucoup de jeunes du centre de formation jouent. Donc du coup c'est un plaisir. C'est à ce moment-là que moi je découvre visuellement Moussa Diaby. C'est à ce moment-là. Alors que, comment dire, attends, je me demande si c'est Moussa Diaby cette saison. Peu importe. Mais il y a quelques jeunes, en tout cas, que j'ai pu découvrir cette saison grâce à ça, grâce au match amicaux qui était en soi inintéressant, où Paris jouait assez mal, puisqu'en plus, il y avait tous ceux qui n'étaient pas encore revenus du mondial. Mais ça permet ça, mais je peux pas ne pas voir. En fait. Ouais. C'est plus fort que moi. En fait.
Mais comment ça se passe au quotidien, dans ta vie de famille ou même au travail? Comment tu t'organises pour. Déjà, comment ton entourage vit ton supporterisme?
Alors, côté travail, c'est encore autre chose. Côté famille, déjà, c'est assez simple puisque mon gosse, j'ai appelé Marco.
Comme Marco Verratti.
Donc, du coup, tu vois, avec les négociations, quand même, il y a une sombre histoire de prénom donné dans la région des Pouilles. Donc, du coup, ça, c'est la version maternelle, et la version paternelle, c'est Verratti. Mais bon, voilà, ça dépend de notre auditoire. On raconte la version qu'on veut en fonction. Et bon, là, sur Banquette Podcast, je peux donner la bonne, donner la vraie.
Tu veux lui dire quoi à ton fils? Tu veux lui dire quelle version?
Oh, il le sait déjà.
Ah, il le sait déjà?
Il le sait déjà. Quand je lui demande quel est son joueur, il me dit Verratti. Je lui dis, il a un maillot du PSG avec Marco derrière, avec marqué Marco derrière et le numéro 6.
Très bien.
Voilà, donc ça, t'inquiète, il a depuis qu'il a 6 mois, alors qu'ils font que du 2 ans au PSG. Donc, du coup, c'était une sorte de djellaba.
Ouais.
Et après, de toute façon, quand j'ai rencontré ma femme actuelle, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. À l'époque, j'étais encore au stade. Donc, du coup, pour elle, en fait, très rapidement, elle a compris que c'était plus que, on va dire, un hobby pour moi. Ouais. Et à vrai dire, quand il y a eu la fin du stade, elle était un petit peu, on va dire, en partie rassurée vu comment ça s'est terminé. Mmh. Et puis aussi, c'est tout bête, mais quand je regarde le match à la maison, du coup, je suis plus rapidement avec elle. Du coup, pendant le match, je suis pas avec elle. Mais voilà, je suis plus rapidement avec elle. Donc voilà, mais c'est quelque chose qui a été, comme quelqu'un qui va faire une pratique sportive ou qui va faire un instrument de musique. Mmh. À un moment donné, il va pas être là, il va faire son truc. C'est moins bien vu de regarder un match de foot que de jouer du piano.
Il y a un peu cette image, on va utiliser les mots, un peu beauf, du supporter, de l'ultra, pas très cultivé, un peu bourrin sur les bords. Quand tu as rencontré ta femme, est-ce qu'elle avait aussi cette théorie là ou
Bon, j'ai peut-être pas dit tout de suite. Ouais. J'ai peut-être pas dit tout de suite, j'en sais rien, je me rappelle plus, faudrait lui demander, mais ça a dû arriver quand même assez rapidement. Mais après, finalement, ce que tu décris, qui est une vérité, c'est en France et par exemple beaucoup moins en Italie. Encore une fois, c'est un pays que j'adore, dans lequel je vais très régulièrement. Et par exemple, quand tu vas au stade, je dirais pas qu'il y a autant de femmes que d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes dans les stades italiens, malgré les clichés qu'on peut avoir sur la violence dans les stades en Italie, sur le machisme en Italie ou ce type de choses-là. Et surtout, le foot, c'est une question qui est beaucoup moins genrée qu'en France. C'est le cas d'ailleurs aussi en Espagne. Le foot, c'est une histoire familiale. C'est une histoire de familiale et de quartier. Et de quartier ou de ville. Donc, du coup, de femme ou homme, en fait, tu supportes l'équipe à des degrés divers, à une intensité diverse, mais. T'es pas dans le truc de. C'est pas les femmes qui vont dire oh là là, mon mari est un beauf, il regarde le foot tout le temps, j'en ai marre, on pourrait aller au théâtre ou ce genre de cliché-là. Non, non, ça fait partie des activités culturelles, sens large.
C'est la fameuse culture foot dans chaque pays qu'on retrouve dans les pays latins, comme tu l'as dit, l'Espagne, l'Italie, même le Portugal. L'Angleterre. On va en Argentine, on voit souvent. Là, il y a le super classique. À un moment, on enregistre, c'est. On est en plein dans l'entre-deux matchs du Super Classico de la finale de la Copa Libertadores. Et je parlais avec un confrère qui a vécu en Argentine quelques temps. Et il me disait qu'il avait rencontré une famille où la famille était vraiment partagée en deux. Donc, c'est-à-dire la mère et deux fils étaient pour Boca et l'autre partie était pour River. Donc, c'est vraiment c'est une histoire familiale. Alors qu'en France, j'ai l'impression que c'est plus une question individuelle, le supporterisme. Toi, tu l'as vu comme ça aussi?
Toi qui as
été au stade, ouais.
Après, bon, ma pratique du stade, elle était un petit peu différente parce que dans les tribunes ultra, on est déjà moins dans un registre familial ou t'es plus dans un registre d'amis qui vont au stade dans une même partie de la tribune ensemble et après de personnes qui se réunissent en fonction de leur pratique du supporterisme. Donc du coup dans moi en tout cas dans ce que j'ai pu vivre au stade, oui, de toute façon, c'est là pour le coup la dichotomie elle est évidente.
Ouais.
Après Oui, ce que tu dis, par exemple, c'est assez... je ne vais pas dire que c'est inimaginable en France, mais oui, il y a un côté quand même, la question de supporter un club, pas forcément suivre le foot, parce qu'on le voit pendant le mondial, quand tu allais dans les bars, bon, à Paris, parce que c'est là que j'habite, tu avais énormément de femmes. Je dirais pas moitié-moitié, mais tu étais quand même sur un très gros registre. Donc du coup, tu vois que certaines, en gros, l'euro et le mondial...
Les événements peuvent, populaires, ouais.
C'est ouais, ça. Voilà, ça mmh. peuvent... peuvent transcender un petit peu les questions de genre qui a trait au foot.
Et dans ton travail, donc tu travailles à Libération, on peut dire que c'est quand même un milieu assez intellectuel. Il y a toujours cette opposition entre l'intellect et le physique, le sport. Mmh. Comment tes confrères, eux, voient ta passion pour le foot? Tu lis dans le livre, il y en a certains qui disent « Ah, mais c'est que du foot ». Comment tu le vis, toi, quand tu parles du PSG à d'autres confrères ou consoeurs qui... pour qui ce n'est que du foot?
Disons que c'est pareil, je pense que les premières fois où j'ai pu en parler avec eux, ils ont pu peut-être, j'en sais rien, moi j'ai jamais vraiment reçu un truc violent, mais peut-être, je dirais pas me catégoriser parce que c'est pas forcément le premier sujet que j'ai pu aborder avec chacun, mais on pourrait se dire, ah ouais d'accord, lui il est comme ça. Après, à l'IB, on est quand même beaucoup, on est beaucoup de névrosés. Chacun ses névroses. Il y en a certains, ça va être les questions de sport, des autres en fait qui vont par exemple sur l'écologie ne rien laisser passer, d'autres sur la culture qui vont avoir des visions très très radicales des choses. Donc en fait finalement ma forme de radicalité, je pense n'a pas choqué plus que ça. Et encore plus sur la durée, mes collègues. J'ai pas de. Tu vois, je dis oui, c'est que du foot, peut-être que ça je l'ai, mais c'est pas avec du mépris. Le mépris, j'ai pu l'avoir plutôt dans des bars ou dans des soirées où je parlais avec des gens qui eux pouvaient avoir des réponses ou même des questions assez méprisantes sur le foot. Ça va tourner toujours autour du le foot c'est un sport de beauf, il y a trop de violence dans les tribunes, c'est un sport machiste, comment ça se fait qu'on peut dépenser autant d'argent pour regarder ça, comment c'est qu'on peut passer tout son temps à faire ça. Et pas quand tu les questionnes, tu vois qu'en fait, qu'ils vont regarder des émissions de télé-réalité dans la foulée. Donc du coup, tu leur dis, est-ce que regarder un Dijon-Rennes, c'est plus ridicule que de regarder une émission de télé-réalité? Moi, je pense pas. Pour certains, oui. Après, bon, tout est relatif, encore une fois. Mais moi, en tout cas, à l'IB, j'ai jamais vécu, tu vois, ce truc-là. Des fois, quand je prends mon poste, le match, par exemple, il va être à 15h. Donc du coup, oui, à un moment donné, je vais regarder le match du PSG. Pendant mon taf, je reprends mon taf. Rassurez-vous par la suite. Mais du coup, je vais faire cette pause-là et ça choque personne.
Bah, tant mieux. Et on va revenir un peu sur ton expérience d'ultra. Je voudrais que tu nous donnes un peu une définition, de ce qu'est un ultra. Pour toi, qu'est-ce que c'est exactement?
Si on doit donner, on va dire, les trois types de supporterisme. Avec chaque fois des degrés divers qui peuvent changer selon les pays aussi, mais on va dire les trois grandes familles. Il y a le supporter, ce qu'on appelle dans le monde ultra, le supporter lambda, c'est-à-dire celui qui peut aller au stade ou non, mais pour, en tout cas la question du stade n'est pas indispensable pour lui, qui peut regarder tous les matchs ou non, qui peut parfois aimer le club vraiment à mort du début de sa vie jusqu'à la fin. Comme je dis souvent, il y a des personnes qui étaient des lambdas dans les années 2000 qui aimaient exactement autant le PSG que moi qui étais un ultra. Donc c'est vraiment pas une question d'intensité de supporterisme, c'est plutôt une question de pratique.
D'accord.
L'ultra, qui est la deuxième catégorie, la troisième, je vais donner la troisième pour après revenir sur les ultras. Troisième, c'est plutôt la partie hooligan, qui est surtout anglais, parce que maintenant tu trouves des hooligans dans toute l'Europe, mais c'est plutôt une pratique qui va être là il y a autant le foot que la castagne. Après, les personnes qui vont dire les hooligans, le foot c'est un prétexte, tout ça c'est souvent des conneries. Les hooligans aiment leur club, ils suivent leur club, sauf que c'est comme s'il y avait deux matchs en fait. Il y a le match contre les supporters adverses, il y a le match contre l'équipe adverse. Voilà, et c'est encore une fois, je ne parle pas de jugement de valeur sur ça, c'est une pratique comme une autre. Encore une fois, c'est délictueux, c'est tout ce qu'on veut, mais moi j'ai pas de jugement moral à apporter là-dessus, ça m'a jamais intéressé. Mais voilà. Et après, donc il y a la partie ultra, je dirais, qui est intermédiaire sur les pratiques. C'est une manière d'appréhender son club qui est un petit peu totalitaire dans les pratiques. pas totalitaire dans le sens où on donne des ordres, parce que d'ailleurs le mouvement ultra est souvent un monde assez horizontal, c'est-à-dire où il y a, c'est, dans les groupes ultra, c'est plus la discussion que les ordres qui vont déterminer si on fait tel ou tel déplacement, si on le fait, dans les, plutôt dans les manières dans lesquelles on le fait, qui vont déterminer les types de banderoles, les types de, le nombre de fumigènes craqués ou ce type de choses-là. C'est plutôt des discussions qui sont horizontales. Mais oui, ça, déjà d'une, la relation physique à son club, elle est très présente. Tu te dois de suivre ton équipe. Alors, les matchs à domicile, bon, là, évidemment, c'est indispensable.
Mais tu fais tous les matchs à domicile quand t'es ultra ?
Alors, t'as une expression qui est. Alors, bon, c'est certain, il y a aussi le petit chelem et le grand chelem. Mais en gros, le grand chelem, c'est de voir tous les matchs à domicile et de faire tous les déplacements d'une saison. C'est un petit peu le. Alors, moi, j'ai pas eu le temps de le faire parce que c'était la saison suivante, je voulais le faire. Enfin, la saison qui suivait le plan Le Prou, j'avais prévu de le faire. Malheureusement, j'ai été licencié par Robin Leproux du Parc des Princes, donc j'ai même pas pu faire la partie assez facile du grand chelem qui est de suivre tous les matchs à domicile. Mais c'est quelque chose, c'est un espèce de rêve d'ultra en fait, de pouvoir faire ce grand chelem une saison, de dire j'ai suivi mon équipe partout, y compris si elle avait des matchs à Bucarest, à Moscou, à Chypre, peu importe, j'y étais, en J9, en bateau, en low cost, etc., à dormir sur place ou pas, ou dans les gares. Après, tu me posais la question pour le stade.
Ouais. Oui. C'est ça. Est-ce que t'es obligé d'assister à match,
ouais,
au match
T'es obligé. Stade, ouais, t'es obligé parce qu'en fait l'idée donc l'autre partie de ce qu'est être un ultra, c'est de gagner non pas du coup la bagarre face aux supporters adverses comme pour certains hooligans. Mais ça va être plutôt gagner le combat symbolique en tribune. Donc c'est-à-dire chanter plus fort, faire de plus beaux tifos, faire des banderoles qui vont énerver les supporters adverses. C'est pour ça, par exemple, qu'une petite aparté, quand il y a eu la banderole pour la finale
contre Lens,
le coup, contre le PSG, ouais. Lens, pédophile, chômeur, consanguin, bienvenue chez les ch'tis. Hein, désolé, mais maintenant, en 2018, ça fait un peu bizarre d'entendre des choses comme ça. Mais à l'époque, en fait, tu demandais aux Red Tigers en fait, de Lens, donc les ultras de Lens, ce qu'ils en pensaient. Ils n'étaient pas du tout traumatisés, les mecs. Hein. Ils l'ont pris comme OK, bah, la prochaine fois, vous allez voir ce qui va vous arriver quand vous voudrez vous déplacer à Lens, en banderole, et peut-être même plus que ça, plus qu'en banderole. Mais en fait, ça est parti. Voilà, c'est de gagner ce jeu-là de la provocation, du bruit, et puis oui, pour faire de la fureur aussi, voilà, de montrer aux autres tifoseria que tu es la meilleure, ou en tout cas que tu prétends l'être.
Je sais que tu es fan de NBA, on est tous les deux fans de NBA. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut un peu comparer ça au trash talk, du coup, des supporters, comment se trash talker pour remporter la bataille des mots, en fait, c'est ça, ouais.
Oui, c'est ça, j'avais jamais fait ce rapprochement, mais t'as une part de ça, en fait, c'est-à-dire gagner le combat psychologique face aux supporters adverses, pas forcément pour gagner le match sur le terrain, parce que d'ailleurs, la plupart des joueurs, en fait, c'est abstraction, en fait, des ambiances, et aujourd'hui, il y a très très peu de joueurs, en fait, enfin, il y a assez peu de joueurs, on va dire, professionnels qui rentrent dans un endroit, qui disent, ah, mon Dieu, il y a trop d'ambiance, il y a trop de bruit, je vais pas arriver à jouer. C'est un petit peu un mythe. Chez nous, on croit qu'on. En fait, non, on est surtout là pour.
Il y avait ce truc, justement, lors du PSG-Barça, le 4-0, où des gens avaient dit que Messi avait été hyper impressionné par le tifo parisien, on voyait ses yeux, et genre, waouh, c'est incroyable, et il disait que ça avait joué sur la prestation de Messi qui a été éteint par Kimpembe. Tu penses que c'est du flan, tout ça, ouais.
Moi, je pense que c'est des conneries. Messi, il a joué avec la sélection argentine dans des stades en Amérique latine où je te retrouve avec des fouilles au corps qui sont beaucoup moins précises que celles que tu peux avoir en France, qui sont déjà pas forcément les plus précises. Je pense pas qu'une fois que t'as joué un Brésil-Argentine au Brésil, je pense pas que le Parc des Princes post plan Le Prou, ouais, puisse t'impressionner. Et c'est pas une critique d'ailleurs face aux supporters qui ont mis l'ambiance ce jour-là, parce que je pense qu'ils ont fait une très solide prestation. Le résultat aidant, mais ils ont fait une très solide prestation. Mais la peur, non. La peur, non. Messi, il a pas peur de. Il a pas peur. En plus, tu sais même pas s'il a peur ou s'il aime quelque chose quand il joue un match. En fait, tu le regardes, il a toujours la même réaction quand il marque un but ou quand il rate une passe ou quand il se prend un but.
Ouais, très froid.
Donc voilà. Ouais. Franchement, non, ça je pense pas.
Et aujourd'hui, tu te définis toujours comme un ultra ?
Non.
Non ?
Bah non, à partir du moment comme je t'ai dit, en fait, où tu pratiques plus le stade,
ouais,
tu peux plus te dire ultra. C'est terminé. Je suis redevenu un lambda. Mon amour de Paris, il a pas du tout changé, en tout cas en termes d'intensité. Voilà, les pratiques ont changé. C'est plus sur mon canapé, dans des bars ou, par exemple, un détail. À l'époque, je ne pouvais jamais partir en vacances quand il y avait un match du PSG à domicile. Ça, c'était inconcevable.
Donc, ça veut dire que de d'août à décembre, tu ne pouvais pas partir ?
Si, je pouvais partir, mais par exemple, je calculais pour revenir le jour de... pour partir après le premier match, par exemple.
Ouais.
Tu vois, si je voulais partir le 15 août, genre si le premier match était à domicile, je partais juste à, genre le, si tu veux, le dimanche. Le dimanche, si le match avait lieu le samedi. Et puis je revenais le vendredi soir avant le match du samedi. Voilà. Tu vois, je prenais deux semaines.
C'était une galère en fait.
mais c'était complètement une galère. J'organisais tout. Là tu sais, encore aujourd'hui, je vais poser. Par exemple, quand je sais qu'il y a un match de Paris qui va être à une heure. Qui est pas facile pour moi, notamment les matchs de Ligue des Champions, les horaires là, qui nous ont sortis à 18h55, et ben je pose un RTT.
Ah ouais?
Je vais pas louper un match de Ligue des Champions pour un horaire débile, mais bon,
ouais.
L'horaire, je le subis.
Et
à plus, je travaille beaucoup le dimanche, donc par exemple, quand je travaille le dimanche, alors l'avantage de Paris, c'est quand c'est le dimanche, souvent c'est à 21h, donc ça c'est bon. Mais mes horaires, je vais toujours les calquer par rapport à ça, autant que faire se peut. Comme je t'ai dit, j'ai déjà vu des matchs chez moi, mais oui, au travail, pardon. Mais oui, à l'époque j'organisais mes vacances. Alors, à l'époque, en plus, j'étais étudiant, je travaillais pas encore, donc du coup, c'était tu partais pas trois semaines tu vois, au fin fond de je sais pas quoi. J'avais que la thune que je gagnais au mois de juillet pour pouvoir partir. Donc, puis souvent, je partais en septembre. Il y a qu'à trêve internationale, tu pouvais t'arranger quand même.
Effectivement, mais je te dis, t'es une galère. Mais en fait, en y réfléchissant, je me rends compte que, pas à ce niveau-là, mais c'est vrai que le calendrier de mon club est vachement important. C'est-à-dire que si je pars, il faut que je m'arrange, que je sois à 10 000 km de Paris, il faut que je puisse m'arranger pour regarder le match. J'étais en vacances à Mayotte et j'ai pas loupé un match de championnat de l'OM. Donc voilà, c'est vrai que ça rythme un peu notre vie, en fait. Les matchs de notre club rythment notre vie. Et je sais pas si pour toi, moi j'avais toujours ce truc quand j'étais plus jeune, c'est que la rentrée, ça commençait pas le 1er septembre, mais ça commençait début août, fin mi-août, quand le championnat commençait. Je sais pas si pour toi c'était pareil aussi. La rentrée, moi, ça commençait avec le foot.
Ouais, c'est totalement vrai. Je vais même te dire que moi, je poussais jusqu'au match amico.
Le premier match amical diffusé
à la télé, parce qu'il y a toujours un match amical. Par exemple, cette année, le premier match amical, je sais plus qui, je crois le Paris FC, je crois cette année, n'a pas été diffusé. Donc du coup, t'es là. Après, du coup, c'est vraiment naze, parce que c'est un match naze qui n'est même pas diffusé. Donc après, la vraie rentrée, c'est les matchs suivants. Mais oui, totalement, t'as une part de ça. Après, encore une fois, ce qui était à l'époque, c'était beaucoup plus difficile de suivre le match de Paris ou de Marseille quand t'étais pas en France, par exemple. Donc là, t'étais quasiment là. Encore une fois, tu es en Europe, si tu veux vraiment, mis à part si tu es, au fin fond de l'Ukraine de l'Ouest, mais encore, si tu as une ville pas loin, il y a de fortes chances que le match de Paris, les matchs de Paris, encore une fois, sont encore plus diffusés, mais même de Marseille, à partir du moment où tu as Internet, en fait, c'est terminé, tu peux regarder les matchs de ton équipe.
C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait pour ton club ou par amour de ton club, à part appeler ton fils Marco?
Oui, parce que c'est simple comme réponse du coup, mais sans ça, c'est plus difficile. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Tu parles pour regarder des matchs ou pour
ton club, parce que t'es supporter du PSG. Le truc le plus fou que t'es pu faire.
Truc de plus fou que j'ai pu faire. Franchement, c'est une question qui est super difficile parce que j'ai fait beaucoup de trucs assez débiles. J'ai pu me retrouver le lendemain de match contre le lendemain de défaite contre Marseille dans le bureau du proviseur au lycée parce que j'avais pu frapper un Marseillais du truc parce qu'il m'avait provoqué. Je tiens à le préciser quand même, je sais pas moi qui ai mis la première et du coup c'était très bête parce que du coup je me retrouvais avec des très gros désagréments, puis finalement en fait bon ça c'est
là, mais c'est fou ce que tu dis parce que on a pas le même âge, mais à une génération d'écart quasiment, c'est les mêmes choses. Moi, je me rappelle que dans mon collège, il y avait des bagarres au MPSG, c'était amical, je mets des gros guillemets, hein. C'était des bagarres au MPSG. Je me rappelle une fois, ils m'étaient retrouvés dans le bureau du CPE pour ça. Ouais, ils nous avaient bien grondé en disant mais Marseille et Paris, il y a bien deux clubs qui doivent se la fermer en ce moment, c'est bien ces deux-là. Et j'ai appris à la fin de l'année que lui, c'était un ultra, il était à Auteuil. Donc il avait fait son boulot jusqu'au bout, il était corpo. Mais c'est vrai, c'est fou de se dire, enfin, une génération près, même ses soucis à l'école. Encore, on retrouve là, le club rythme notre vie, même à l'école où on pouvait se bagarrer pour des réflexions sur, sont nos clubs de cœur. C'est assez
oui,
fou,
non, mais j'ai pu sécher des cours même pour aller au parc parce que j'avais réussi à récupérer des places. Donc, du coup, je séchais les cours pour ça. Bon, à l'époque, au lycée, j'ai pu sécher pas mal de cours. C'est pas forcément le.
C'est plus facile au lycée. Hein.
C'est pas un truc de dingue non plus, ce que j'ai dit. C'est pas un truc hyper. hyper incroyable non plus. Mais. C'est difficile parce qu'en fait, c'est tellement un truc qui est dans mon quotidien. C'est qu'il y a des choses, je pense que si je les racontais comme quelque chose de classique, d'autres personnes me diraient, mais t'es un peu cinglé de faire ça. Oui, j'ai balancé un fric monstre dans des écharpes, dans du matos ultra. J'ai balancé un fric monstre. Moi, j'avais pas d'argent de poche, j'avais rien. Donc, du coup, il fallait que je travaille pour pouvoir me payer l'abonnement, me payer les déplacements. Il y a une partie de ma paye, de ma bourse étudiante, ou une partie de ma paye, parce qu'en plus, je travaillais par ailleurs à côté, qui passait dans les, qui passait dans tout ça plus que. Tu vois, j'aime pas plus. Je pense que. Aujourd'hui, j'ai toujours pas le permis. Je pense que si j'ai pas eu le permis à cette époque-là, c'est en partie à cause du PSG parce que je balançais beaucoup de fric là-dedans. Par exemple, quand il y avait Orange Sport, par exemple, j'avais demandé à mon père de le prendre. Il voulait pas. Je le paye alors que j'avais, je devais avoir 20 piges. Donc, du coup,
j'avais fait ça aussi pour Bein. Voilà. J'avais dit, c'est moi qui paye.
Voilà.
C'est fou. Et ça fait depuis combien de temps tu peux dire que tu es supporter du PSG on va le faire autrement. Depuis quand à partir de quand tu as commencé à être ultra ?
Ultra. Mon premier match au parc, c'était un PSG FC Vaduz dans la saison 96-97. Il y avait assez peu de monde dans le stade, mais j'étais de l'autre côté. Pas à Boulogne, mais en quart de virage à côté de Boulogne. Et Auteuil faisait un joyeux bordel. Ça m'avait impressionné. Donc j'avais 11 ans à l'époque. Mon oncle a pu récupérer à partir de cette saison-là deux cartes d'abonnés à Auteuil de voisins en fait qui n'allaient qu'à un match sur deux, qui ne faisaient que les gros matchs en gros. Et les matchs un peu à la con, ils les faisaient pas. Donc du coup, ils nous les filaient. Et donc du coup, je partais avec mon oncle, je prenais la bagnole, on traversait le 91, le 94, et puis on arrivait au parc, on se garait, et puis voilà. Et les deux cartes d'abonnés étaient en Auteuil rouge chez Tigris Mystique. Et donc du coup, dès mon deuxième match, je l'ai suivi avec les ultras. Donc c'est-à-dire dans un endroit où tu dois lever les mains, tu dois lever les bras, tu dois chanter, tu dois te mettre debout sur le siège pour pouvoir voir, parce que de toute façon les gens devant toi sont debout sur le siège. Et en plus, quand t'as 11 ans, tu dois vraiment te mettre debout sur le siège si tu veux avoir une chance de voir quelque chose. Et donc du coup. Très rapidement, en fait, je ne peux pas me considérer comme ultra à 11 ans, évidemment. Mais pour moi, en fait, le stade, c'était ça. En fait, j'ai découvert après les tribunes latérales, vraiment. C'est-à-dire, j'avais fait ce premier match-là, mais contre Vaduz. Mais après, j'ai découvert un petit. Mais toujours, j'avais le regard qui était fixé sur Auteuil parce que les couleurs qu'il mettait, le bruit qu'il faisait, ça m'impressionnait. Mmh. Et du coup, on peut dire que je me souviens jamais de la date exacte, mais si je dois me qualifier vraiment d'ultra, ça devait être aux alentours de 2005, 2006, 2004, autour de ces années-là, jusqu'en 2010, et le plan Le Prou. C'est une parenthèse, on va dire, quasiment onirique dans ma vie de fan, mais dans ma vie tout court, en fait, puisque là, pour le coup, Paris était vraiment devenu quelque chose de primordial dans ma vie. Même y compris dans les pratiques, même physiques, voilà. Donc là, c'était vraiment quelque chose qui était au-dessus de quasiment tout.
Alors que c'était pas la meilleure époque de Paris en plus, c'est ça
ouais, bien sûr. Mais les meilleures ambiances, d'ailleurs, si je dois te citer les deux ou trois meilleures ambiances que j'ai pu avoir, c'est des défaites. C'est des défaites parce que, par exemple, l'anniversaire des Authentiques contre Saint-Etienne, je crois que le match, on perd 2-0. Je vois rien pendant 15-20 minutes parce qu'ils font un craquage mais monumental. Qui aujourd'hui ferait rêver toutes les tifosi à la française avec un faux bâton de TNT, etc., qui fait qu'il explose. Je conseille à tout le monde de regarder cette vidéo là sur YouTube. Il y a un montage qui a été fait à l'époque et qui est toujours en ligne. C'était une défaite, l'anniversaire des Supras aussi. D'ailleurs, j'étais avec les Supras d'ailleurs à ce moment-là, donc c'était dans le virage Auteuil. Donc les Authentiques, c'était en quart de virage, c'est-à-dire en tribune G, le quart de virage, et Supras Auteuil, donc là vraiment, donc là la tribune Auteuil, c'est derrière les cages. Et là, je l'ai vécu aussi à l'époque c'était fantastique aussi. Un PSG Marseille qu'on perd, donc je ne me rappelle même plus du match. Je sais qu'on le perd, il marque 3 buts, donc je ne sais pas, parce qu'on a perdu deux années de suite, un 3-0, un 3-1, mais je ne me rappelle même pas. Je ne me rappelle même pas du tout, je sais qu'il y a eu défaite. Mais le début du match, il y a eu des pots de fumée noirs qui sont partis avec des gens qui sortaient de la tribune parce qu'ils toussaient trop, etc. Mais qui revenaient en train de lever les bras, genre trop content de revenir dans le truc. C'était un début de match fantastique. J'ai pas vu les 10 premières minutes. Mais c'était parce qu'en fait, t'es là pour autre chose. En fait, t'es pas que là pour. T'es là pour que ton équipe gagne. Mais t'es là aussi, encore une fois, pour montrer que toi qui fais partie du coup de l'entité Paris Saint-Germain au sens large, toi tu fais le taf en tout cas.
C'est vrai que ma première expérience en virage, ça a été ça en fait. C'était la première fois que j'ai le Vélodrome, j'étais en virage. Et c'est vrai qu'en fait, le plus important, c'est pas tant de regarder le match, parce qu'en plus, t'es derrière les cages, t'es assez haut, donc t'as pas une supervision comme si t'étais genre en latéral, avec bien au milieu et tout. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est de chanter, c'est d'être debout. Et c'est de faire du bruit, c'est le bruit. Il y a toujours le capot qui est là pour chauffer encore plus tout le monde. Et en fait, c'est ça, le stade, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a les ultras en fait. Pour moi, j'ai l'impression que c'est clairement ça. Ouais.
Bah, c'est en fait, si tu veux, c'est l'âme d'un club, c'est un petit peu son fil rouge, c'est la mémoire du club. Il y a des historiens de chaque club, il y a plein de lambda qui connaissent très très bien leur club, mais ceux qui vont transmettre les choses et ceux aussi qui vont essayer de faire maintenir les valeurs du club, qu'est-ce que ça veut dire, c'est difficile à définir et ça change je pense en fonction de tous les clubs et de toutes les tifosas là, mais c'est eux qui sont en charge de ça et c'est aussi eux qui sont en charge de défendre les intérêts des supporters au sens large du coup. C'est-à-dire que nous, des actions qu'on a faites contre Paris, contre le club, contre l'entité, parce que les abonnements étaient augmentés de 10 euros à l'année, les fois où ils ont voulu commencer à nous contrôler nos cartes d'identité en déplacement, toute une série de choses en fait qui participaient soit au recul des libertés publiques, enfin des libertés on va dire des supporters en général, ou alors des choses qui faisaient que les tribunes populaires allaient l'être un peu moins. Les ultras normalement sont toujours les gardiens du temple de ça. Il y a aussi des dérives, oui, il y a des dérives. Il y a des groupes ultra d'extrême droite qui vont se dire des trucs fachos. Il y a des groupes ultra qui vont être plus ou moins violents, etc. Mais c'est toujours pareil en fait. Quand un mouvement dérange, on va surtout regarder les exactions, on va surtout regarder les problèmes qu'ils créent, plutôt pour justement dire ah voyez, ils créent ces problèmes là. Donc alors qu'en fait, moi, à mon sens, le plan Le Prou arrive non pas parce qu'il y a trop de violence au Parc des Princes, parce que finalement d'ailleurs au Parc des Princes, si on liste tous les problèmes qu'il y a pu avoir en 15 ans, s'il y en a des vrais problèmes, hein. Je pense qu'il y a eu 4 ou 5 matchs, vraiment, je pèse mes mots, il y a eu 4 ou 5 matchs qui ont créé 2 morts notamment, donc je mesure la gravité de la chose, mais 4 ou 5 matchs sur 200, 300, 500, à domicile je parle, un peu moins à l'extérieur, mais à mon sens le plan Le Prou arrive surtout pour mettre les groupes de supporters constitués au pas. Et pour pouvoir dire, si on veut augmenter les prix des abonnements, on pourra le faire. Si on veut mettre un maillot rose fluo, violet et bleu ciel, bleu olympien, on peut le faire. Si on peut le faire, personne nous dira le contraire. Et voilà, ça c'est à mon sens, c'est ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand les supporters marseillais critiquent leur direction pour certains trucs qu'ils font, je les soutiens totalement, peu importe la réalité.
Bah, si tu fais bien de parler de supporters marseillais, ce que je voulais qu'on aborde un peu aussi les rivalités. Donc, toi, t'es un ancien ultra, t'es supporter du PSG. Et j'ai jamais posé la question en fait à un supporter du PSG, mais comment toi tu vis la rivalité avec Marseille? Qu'est-ce que ça représente, Marseille, pour toi?
Ouais, c'est sûr que même aujourd'hui, je vais commencer par aujourd'hui pour aller dans l'avant, après, enfin dans l'avant, un peu, juste après, à dire cette phrase, tu comprends. Il y a des supporters parisiens en fait qui considèrent que aujourd'hui une victoire contre Marseille signifie moins qu'il y a 10 ans. Je fais partie et je suis pas minoritaire dans ce... Enfin, je suis pas dans un camp minoritaire. Une victoire contre Marseille, c'est un des plus gros plaisirs qu'il peut y avoir dans une saison. Comme une victoire de Paris pour les supporters marseillais, contre Paris pour les supporters marseillais, je demande aux Lyonnais et Stéphanois, ils vont te dire exactement la même chose. Il y a les considérations d'ordre du championnat, c'est-à-dire le classement que tu vas avoir, le titre que tu vas pouvoir obtenir et tout ça, mais il y a face au rival. À Paris, en région parisienne, c'est aussi un petit peu différent, c'est qu'on a tous... on connaît tous des supporters du club adverse. Voilà, les Paris, voilà. J'étais en face de moi. il y avait des gens que je connaissais au lycée. Il y avait dans mon quartier, finalement, c'était un peu moins, mais c'était pas parce que j'étais un quartier, une sorte de village retranché gaulois, enfin francilien, tu vois. Non, c'était c'est plus par voilà, par par hasard. Donc du coup, t'as aussi ça en fait de le mec, si tu perds, il va te vanner pendant 3 mois, donc 4 mois jusqu'au prochain match, et tu peux pas supporter ça parce que c'est chiant, quoi. Donc du coup, voilà, t'as cette rivalité là. Après, oui, Paris et Marseille sont deux des plus grosses tifoseras en France. En nombre, c'est peut-être d'ailleurs les deux plus grandes. Donc, du coup, tu as aussi une espèce de volonté d'hégémonie, dans le supporterisme. D'hégémonie dans le supporterisme qui, en fait, finalement, est gagnée par les Parisiens pour les Parisiens et par les Marseillais pour les Marseillais. C'est totalement subjectif, c'est impossible à mesurer, donc c'est plus une joute, c'est plus un jeu. Et à partir du moment où on sait qu'on n'essaye pas d'essayer de rationaliser un petit peu des classements de supériorité, etc., voilà, tant que ça reste dans, on va dire, dans la subjectivité assumée, ouais, je trouve ça. Puis en plus, c'est cool, en fait, moi j'ai des potes marseillais, ils me vannent, on se vanne. Je vanne aucun de mes potes marseillais après un PSG-OM gagné, parce que j'ai trop peur en fait qu'ils me fassent la même chose. Donc du coup, je me fais vanner. Un PSG-Marseille perdu, bon, ça fait longtemps.
Non, ouais.
Pas être souvenir. Ouais. Mais à l'époque, c'était quasiment que par des lambda, des personnes qui suivaient pas trop le foot, mais qui savent que ah, tiens, je vais le faire chier parce que je sais qu'il aime le PSG. Mais par exemple, j'ai aucun de mes mes amis supporters à Marseille qui vont me vanner un jour de PSG-OM parce que je le ferai jamais aussi pour eux.
Ouais, et gagner contre Marseille, c'est en termes de sensation, l'intensité dans la sensation, c'est ce qui est le plus fort pour toi. Moi, je sais que, enfin, ça remonte à il y a très longtemps quand même, mais la dernière victoire de Marseille contre Paris, oh là là, le plaisir intense, c'était, enfin, même quand le dernier match un peu qui m'a marqué, c'est le 2-2 au Vélodrome, quand Thauvin marque le but du 2-1, c'était, je crois qu'on a dû m'entendre dans toute la rue, c'était incroyable. Donc c'est vraiment le match, je pense, que c'est le match que j'attends le plus en championnat. Après, il y a d'autres matchs, si on joue le titre, on joue des trucs comme ça, c'est important. Mais ce match-là, même si on n'est pas bien, c'est pour l'honneur, en fait. Il y a une question d'honneur dans le truc. Et là, c'est un peu dur à vivre en ce moment pour moi. Là, surtout les derniers, c'était les deux derniers, trois derniers, enfin, les trois derniers matchs, c'était très, très compliqué à vivre. Ouais. Donc pour toi, la victoire contre Marseille, c'est vraiment important.
Oui, mais comme tu dis, en fait, mis à part le match qui permet de valider un titre, et même encore d'ailleurs, comme on sait plus ou moins que pendant la saison dernière et là cette saison là, ça va bien parti, on va savoir assez vite que Paris va être champion. Donc du coup, j'allais te dire, en fait, le match qui permet le titre est le plus intense avec les matchs contre Marseille. Là, aujourd'hui, par exemple, cette saison, il est fort probable que les deux matchs les plus intenses en France, ce soit ça, et je sais pas, devant une finale, devant des finales de coupe. Je sais pas. Peut-être qu'il faut que. Je sais pas s'il va être contre. Non, ceci, en fait, parce que c'est pas très grave si je dis ça, mais j'en parlais avec Philippe Goguet, Culture PSG. Et il me disait des fois, j'ai l'impression qu'il faudrait presque que Paris perde contre Marseille un jour, que Paris perde, pour que les supporters parisiens se rendent compte de ce que ça veut dire quand même que de gagner contre Marseille tout le temps, ou au moins ne pas perdre tout le temps. Ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'était que les souffrances à l'époque où on ne gagnait pas, et qu'est-ce que ça a été aussi les souffrances pour Marseille quand ils n'ont pas gagné dans des matchs d'affilée. C'est un truc qui c'est ton rival, quoi. Donc tu te construis en miroir par rapport à lui. Donc tu sais qu'il va t'attendre en tournant, tu sais qu'il te regarde, tu sais qu'il va aimer t'écraser. Donc du coup, si t'écrases vraiment, bah, du coup toi tu sais ça, et c'est limite, je dirais pas que c'est t'es content plus parce que lui ne sera pas content, mais enfin tu vois, je pense qu'en tant que supporter, quelqu'un qui me dit qu'il est supporter du PSG mais qui déteste pas l'OM, je parle pas des supporters marseillais, mais l'OM, c'est quelqu'un que je comprends pas. Et pareil, c'est un supporter marseillais, me dit, oh, moi j'ai rien contre le PSG, je lui dis, bon, je le regarde, mais je dis, ce sera peut-être plus facile pour la conversation, mais je te comprends pas trop, quoi.
Mais moi, ce que je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que moi, je déteste le PSG, enfin vraiment, j'ai beaucoup de mal, mais ça n'empêche pas que d'avoir un avis entre guillemets objectif, c'est un mot que j'aime pas trop, objectif, mais c'est reconnaître que voilà, l'effectif est très fort. Qu'ils ont un potentiel pour aller à tel ou tel stade de la compétition en Ligue des Champions, mais pour autant, moi je prends le 6-1, moi, pas te mentir, je me suis levé comme si c'était le Barça était mon équipe, tu vois. C'est normal.
C'est logique. À part un supporter parisien qui n'était pas heureux devant le Marseille Atlético là-dessus.
Et pourtant, je pensais que Paris allait se qualifier. Mais j'étais très content de voir que c'est pas arrivé, quoi.
C'est la notion de supporterisme. Quelque chose qui est et tu vois ça dans le monde entier, dans tous les clubs, quoi.
Ouais. Et on est sur le dernier tiers de l'épisode. On va parler un peu de la saison courte et ton avis, déjà, ton pronostic. Qu'est-ce que tu penses de cette année du PSG version Thomas Tuchel?
Moi, je suis un petit peu emmerdé parce que moi, le travail de Thomas Tuchel, je suis vraiment très, très, très convaincu. Le travail tactique, ce qu'il essaie de mettre en place, ce qu'il a déjà réussi à mettre en place, au-delà même de la défense à 3 d'ailleurs, mais on va dire, voilà, ce qu'il veut vraiment mettre en place, c'est super agréable. Sa gestion de l'effectif est selon moi excellente. Sur l'intégration des jeunes, on rêve que de ça, et lui, il est en train de l'accomplir. J'espère que les supporters parisiens se rendent compte de ce que ça veut dire que de voir autant de jeunes du centre de formation jouer et être parfois même titulaires alors qu'ils ne sont pas rentrés 15 fois en cours de match. Mais on va pas se mentir là, le PSG Liverpool et la qualification en 8e va conditionner toute la saison. Je prendrais beaucoup de plaisir si on fait une nouvelle fois le triplé, je compte pas le trophée des champions, si on fait le triplé au national. Mais si élimination, après sur Paris, si t'es troisième et que tu gagnes l'Europa League, c'est vrai,
c'est un truc qui est possible.
Tu pourras dire au Marseille, à jamais les premiers à avoir gagné deux coupes d'Europe, et puis comme ça au moins tu auras un nouveau truc de vanne.
Mais moi c'était mon truc, j'espérais vraiment que Marseille allait gagner une coupe d'Europe, avant Paris, n'importe laquelle, pour dire à jamais les premiers à deux.
Du coup tu pourras te retrouver avec ça. Et en fait oui, mais alors après honnêtement, s'il y a troisième place, déjà je pense que ça a beaucoup tangué là-dessus. Il va y avoir des très grandes phrases, des très grandes réflexions sur qu'est-ce que c'est que le PSG, l'institution, etc., qui penseront pour beaucoup c'est juste une manière de brasser du vent plus qu'autre chose. Ce qui s'est passé là, juste pour avec Paris en Ligue des Champions, ils n'étaient pas du tout contre Liverpool, mais en même temps Thomas Tuchel, en fait, je pense, n'avait pas eu le temps vraiment d'appréhender son effectif et de mettre en place les choses qu'il voulait mettre en place. Le match aller contre Naples n'était pas bon du tout et Paris méritait de le perdre. Le match retour à Naples, Paris méritait de le gagner, mais effectivement ça s'est plus ou moins équilibré. Donc Paris, je pense, à la place qu'elle mérite quand elle est troisième là. Après contre le match contre Liverpool, va tout conditionner pour le reste de la saison c'est difficile. Après la loose de Paris pourrait faire que Paris met 3-0 à Liverpool et perd 2-1 à Belgrade, et donc du coup Paris est éliminé quand même. Mais bon, on va espérer que ça n'arrive pas.
Ouais. Et c'est quoi ton plus beau souvenir avec le PSG, tu devais en garder qu'un seul?
Depuis
que tu suis le club, depuis que t'es amoureux de...
J'étais un peu trop jeune pour la victoire en Coupe des Coupes. Je sais que je l'ai vu, je sais que j'étais heureux, mais j'étais trop jeune pour vraiment que ça soit dans mes souvenirs. Enfin, j'avais 11 ans, donc voilà. Le plus beau souvenir, ouais, je pense, sans trop de contestation possible. Alors, je sors du côté tribune.
Ouais.
Je sors du côté tribune. Mais c'est le PSG Marseille en finale de la Coupe de France.
Ah, en 2006.
Voilà.
Pas le deuxième.
Le deuxième, bon, tu te dis, bon, bah, c'est limite dans l'ordre des choses. Mais but de Kalou, alors qu'il fait un match sur 5.
C'est Dorasso le deuxième, non ?
Et Dorasso, je crois même que c'était son premier but de sa carrière, ou de mais pas très loin.
Au PSG, ouais.
Franchement, il faut voir combien de buts il avait mis dans sa carrière, mais finalement, il n'avait pas mis beaucoup, c'était pas un grand buteur. En tout cas, de l'extérieur de la surface, c'est quasiment certain que ce soit le seul. Parce que ça frappe de balle, c'est pas la...
Je crois que c'est... Tu pouvais pas citer pire souvenir. Pour moi, c'est vraiment le match qui m'a le... Un des PSG Marseille qui m'a fait le plus mal. Je crois même que c'est celui qui m'a fait le plus mal.
C'est obligé, c'est la finale de coupe.
Je me rappelle très bien, j'étais avec mon papa, on regardait le match. Lui, il regarde le foot, mais c'est pas un supporter, il regarde ça pour regarder du sport, quoi. Et je me rappelle qu'après le deuxième but, je suis parti, mais j'ai claqué la porte du salon. Et j'étais pas bien, après je suis revenu un peu calmé. Et bon, il y a le but anecdotique de Lamouchi, et on n'arrive pas à revenir. Et je me rappellerai toute ma vie de ces mots.
C'est Maolida, je crois, qui marque.
C'est Maolida.
C'est Maolida et la bouchie, lui, c'est celui qui loupe.
Ah voilà, c'est
celui
ça.
Qui loupe
c'est
quasiment ça. Dans les
tu
6
vois,
mètres.
Tu vois les souvenirs
avec un vieux pointu.
C'est ça quand commençait. Je me rappelle toujours des mots de ma belle-mère le lendemain qui m'a dit mais t'inquiète mon fils, ça va aller l'année prochaine, ils vont la gagner. Et l'année d'après, ils ont encore perdu en finale. donc voilà, mais ouais, donc toi, c'est ton meilleur souvenir.
Ouais, je pense parce qu'en plus, à l'époque, Marseille n'avait toujours pas gagné de titre depuis 93.
C'est vrai.
Et donc du coup, c'était autant parce que Paris pouvait gagner un titre tout court, pouvait gagner un titre contre Marseille. Et puis après aussi la peur de voir Marseille gagner en région parisienne et de voir Marseille. En fait, du coup, moi, c'est un de mes meilleurs trolls contre mes potes marseillais, c'était de leur dire pas de titre depuis tant d'années, machin. Et là, en fait, s'ils avaient gagné, je me serais mangé dans la tête depuis deux jours et c'est contre Paris. Voilà, donc oui, sur le terrain, en tout cas, ouais, c'est mon meilleur souvenir.
Ok, bah, je voulais te poser la question de ton meilleur OMPG, mais vu que c'est ton meilleur souvenir. Voilà, bah écoute Damien, merci beaucoup d'être venu parler des ultras, des supporters et du PSG. Mais c'est important quand même, c'est la première fois dans Banquette qu'on parle vraiment des supporters. Donc ça, je trouve ça très très bien. Et puis bah, toujours le bouquin Paris dans les veines, 365 jours dans la vie d'un supporter du PSG aux éditions Marabout, que je n'ai pas cité tout à l'heure. Et bah, du coup, on peut te lire chez Libé, c'est ça ?
Exactement.
Ouais, et sur Twitter aussi.
Exactement. Voilà. Ouais, ça parle pas que de foot, ça parle aussi de politique un petit peu. Mais ça, voilà.
Et de basket, de NBA.
Oui,
aussi,
oui, bah, aussi, voilà. Parce que c'est ma deuxième névrose.
Effectivement. Bah écoute, Damien, merci beaucoup. Et puis bah, à très bientôt.
C'est moi qui te remercie. À très vite.
Ciao. Merci à Damien Dol-Chabourine d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram, on est partout. Si vous aimez Banquette, abonnez-vous, on est vraiment partout, je l'ai dit, sur toutes les plateformes. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par Abdallah Swadri, générique d'Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari, à la prise de son Marine Rowe, au montage et mixage Laurie Galigani. Et moi, je vous dis à l'an de semaine. Ciao !